Frères et sœurs, nous sommes ici à la fête des trompettes. La saison des fêtes d'automne a commencé. Dans l'hémisphère nord, Jérusalem est notre point de référence. Dans l'hémisphère sud, bien sûr, vous comprenez que c'est le printemps pour eux. Et pour ceux qui sont autour du monde au niveau de l'équateur, c'est tout simplement chaud, comme tout au long de l'année. Bienvenue à la saison des fêtes de Dieu d'automne. Et à partir d'aujourd'hui, les choses vont se dérouler très rapidement. Dans 3 semaines exactement, à partir d'aujourd'hui, ce sera le dernier grand jour, tout de suite après la fête des tabernacles. Donc, nous aurons 4 fêtes qui viennent. Nous aurons en fait la valeur de 3 mois de sermons et sermonnettes condensés au cours de cette période de 3 semaines. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes enthousiasmés. Et j'espère que cette période de temps vous aidera à croître spirituellement et que ce sera pour vous cette année un point tournant dans votre vie spirituelle. On envisage bientôt la réalisation de ces jours-là. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Que signifie pour vous ce jour saint? Que veut dire l'accomplissement de ce jour saint aujourd'hui, la fête des trompettes? À quel point est-ce que c'est réel? Pour vous, la réalisation de la fête des trompettes. Plusieurs personnes ici et plusieurs de nos frères à travers le monde qui vont entendre ce message plus tard, vous connaissez cette vérité depuis très longtemps. Nous avons beaucoup de connaissances académiques concernant ça. Nous avons vu et revu les fêtes et leur signification, mais est-ce que la réalisation de ce jour est vraiment réelle pour vous? Son accomplissement va venir, il faut que ce soit réel dans votre esprit. Si vous voulez être parmi ceux qui seront changés en un instant, en un clin d'œil, le sens de ces fêtes-là doit être réel pour vous. Ça va vous permettre d'avoir votre cœur dans l'œuvre pour soutenir la prédication de l'Évangile et pour aller de l'avant. L'accomplissement de ce jour doit être réel pour vous. Est-ce que vous êtes spirituellement prêt et est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour l'accomplissement prochain de ce jour? Lorsque ces choses-là vont commencer à arriver davantage, ce sera des défis pour nous. Ce sera excitant, enthousiasmant. Ce sera puissant comme événement. Mais en même temps, ça donne à réfléchir. Aujourd'hui, frères et sœurs, mon but, c'est de vous rappeler une partie des événements fantastiques qui vont se produire alors que ce grand jour va se réaliser très bientôt. Je veux mettre l'aspect sur le retour de Christ, sur la première résurrection et à quel point nous devons continuer à travailler fort en vue de rendre notre élection sûre. Allons à Nombre chapitre 10, s'il vous plaît. Nombre chapitre 10. Et revoyons certains concepts qui sont en rapport direct avec le jour que nous célébrons aujourd'hui. Nombre, chapitre 10, Dieu a donné certaines directives précises concernant les trompettes. Et le rôle des trompettes est important dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de significations profondes à cela. Nous allons lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. » Donc, il devait faire et utiliser 2 trompettes d'argent battues. Nous avons entendu le son des trompettes tantôt lors de la musique spéciale et nous l'entendrons tantôt encore. Elles étaient utilisées pour appeler la congrégation à s'assembler. Continuons au verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Donc, quelque chose qui devait continuer dans le futur. Verset 9, « Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez ainsi présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. » Verset 10, « Dans vos jours de joie aussi, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes. Vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, on sonnait de la trompette, pourquoi? Pour appeler les gens ensemble à la convocation. On utilisait les trompettes aussi pour annoncer la guerre, pour avertir que la guerre était proche. Et on les utilisait dans les temps de célébration, les jours de fête. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête décrété par Dieu. Il devait sonner de la trompette au commencement de chaque mois. Ici, la fête des trompettes marque le premier jour de ce mois. Alors, c'est un jour de fête très spécial. Allons à Amos maintenant, chapitre 3. Nous allons aller plus loin, Amos, chapitre 3. Concernant le fait qu'on devait faire sonner la trompette. Donc, Amos, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Lorsqu'on sonnait de la trompette dans une ville, il dit, le peuple sera dans l'épouvante. Pourquoi? Parce que, comme nous venons de voir, la trompette annonçait la guerre aussi. En fait, le mot ici, le mot hébreu utilisé, c'est « chauffard », c'est-à-dire une corne de bélier, non pas une trompette fabriquée avec de l'argent battu. Ici, c'était un chauffard, une corne de bélier. Allons à Lévitique, chapitre 23, maintenant. Lévitique, chapitre 23, commençant au verset 23. C'est le chapitre des Écritures où on décrit les jours saints de Dieu en détail. Donc, le verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, c'est un sabbat, publié au son des trompettes, c'est aujourd'hui, et une sainte convocation. » Une sainte convocation. Donc, c'est un mémorial du fait de sonner des trompettes d'argent battues, comme on a vu tout à l'heure. Et on va voir tantôt qu'il fallait en même temps aussi sonner de la corne de bélier, du chauffard. Alors, on appelle cette fête la fête des trompettes, au pluriel. C'est important et c'est significatif. Dieu met ces détails ici pour une raison, et c'est une sainte convocation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, une sainte convocation? Ça veut dire une assemblée commandée. En fait, c'est une sainte assemblée commandée. En hébreu, le mot utilisé, ça veut dire aussi une répétition ou une révision. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour revoir en profondeur le sens de ce jour et envisager la réalisation prochaine de ce jour. Ça nous rappelle ce qui va se produire bientôt lorsque ce jour va se réaliser. Dieu ne fait rien, comme on a vu, sans d'abord avoir révélé ces choses-là à ses serviteurs. Verset 25. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors nous sommes ici et nous célébrons ce jour saint. Allons à Psaume 81 maintenant. Psaume 81, où il est question encore de sonner de la trompette. Psaume 81, le verset 4. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. La fête des trompettes, c'est le seul jour saint qui arrive à la nouvelle lune. Vous pouvez le vérifier sur le calendrier. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Ce jour saint d'aujourd'hui tombe toujours un jour de nouvelle lune. Et le premier jour de la fête des tabernacles arrive toujours lors de la pleine lune, 14 jours plus tard. le mot utilisé pour trompette, ici, c'est encore chauffard. Alors ici, ce n'est pas la trompette d'argent battue. Ici, c'est chauffard, la corne de bélier. Donc, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de votre fête. Car c'est une loi pour Israël et une ordonnance du Dieu de Jacob. Donc, c'est un commandement de Dieu. Alors, en ce jour d'aujourd'hui, non seulement les trompettes d'argent devaient être sonnées, mais le chauffard. Et ça appelait une sainte convocation aussi. C'est une révision de ce que ça représente. Mais comme j'ai mentionné, le son de la trompette aujourd'hui signifie également l'annonce d'une guerre. Aujourd'hui, nous célébrons un jour, oui, ça représente le retour de Jésus-Christ en pleine force, en toute gloire, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça représente un temps où tous ceux qui ont vécu dans le passé et qui ont connu la vérité vont être ramenés à la vie au son de la dernière trompette, comme nous verrons dans les Écritures. Et ceux qui vont être encore vivants et qui appartiennent au Christ, à ce moment-là, seront changés en un clin d'œil. Ce sont les prémices de Dieu. Ce jour représente aussi le jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu sur la terre. Alors, c'est un jour qui est doux, amer. C'est un jour puissant et enthousiasmant, mais en même temps, c'est un jour qui donne à réfléchir lorsqu'on comprend les détails de la signification et des significations de ce jour. Allons à Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Vous savez que c'est le passage où le Christ a parlé de son retour, et nous savons que son retour est tout proche maintenant. Vous lirez tout le chapitre vous-même pour compléter votre étude. Alors, Matthieu 24, commençons à lire au verset 15. Ce sont les paroles mêmes du Christ. Et on sait qu'au début du chapitre 24, ses disciples lui ont demandé « Quels vont être les signes de ton retour? Comment est-ce que nous allons savoir que ton retour sera proche? Est-ce qu'on sera capable d'identifier ce temps précisément? » Alors, le Christ donne certains détails ici, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Luc parle de cela aussi. Daniel, chapitre 9, et le verset 27 en parle également. Dans Daniel 12, il en est question également, où il parle de l'abomination de la désolation. Comment serons-nous? Que les choses vont vraiment approcher. Voici un événement clé qui va se passer, qui va se réaliser. L'abomination de la désolation. Nous savons par les Écritures que les sacrifices vont recommencer sur le mont du Temple. Et tout à coup, ils seront arrêtés. Les sacrifices seront arrêtés et les nations païennes viendront en pouvoir sur Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une certaine abomination qui va se passer. Là où les sacrifices auront repris historiquement, on se rappelle que c'est Antioche Épiphane qui a été la préfiguration de cela. Il a établi une statue de Jupiter Olympe dans le temple à l'époque. Et on dit qu'il a même offert du sang de porc sur l'autel de Dieu. Il y aura un autel d'établi encore à Jérusalem. Elle est déjà construite. C'est un autel mobile que les Juifs ont préparé. Ils sont prêts à opérer. Les ustensiles sont prêts. Tout est en place. Ça pourrait commencer dès demain s'ils avaient accès au mont du Temple. Ils vont offrir des sacrifices à nouveau à Dieu. Mais ces sacrifices-là vont être arrêtés rapidement. Et à un certain moment donné, cet acte païen de désolation d'abomination va se produire. Le Christ a dit, regardez bien, parce que quand ça va se produire, les choses vont arriver rapidement. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Verset 17, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui lui appartient dans sa maison. Donc les choses vont se passer très rapidement. On voit le sens de l'urgence ici. Dieu dit, ne perdez pas de temps, ne perdez aucun moment. N'hésitez pas. Ceux qui vont veiller, qui vont être proches du Christ, vont savoir et vont comprendre ce qui se passe. Daniel chapitre 9 nous dit quoi surveiller. Lorsque ces sacrifices-là vont commencer, les serviteurs de Dieu devront être alertes. Daniel nous dit, dans Daniel 12, que 30 jours après que les sacrifices auront cessé et que l'abomination de la désolation aura eu lieu, la grande tribulation va commencer un mois seulement. Alors, il nous faudra être prêts. Ne perdez pas de temps. Verset 18. « Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Verset 19. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. » Pourquoi? Parce qu'il y aura des déplacements. Et on sait que lorsqu'une femme est enceinte ou qu'elle allaite, c'est plus difficile de voyager dans ces conditions-là. Nous allons peut-être arriver à un certain moment donné où l'Église recommandera peut-être aux membres de l'Église de ne pas avoir d'enfants à cette période-là. Les événements du monde vont nous dire, vont nous indiquer quoi faire. Nous ne sommes pas encore là, bien sûr, mais nous approchons de cette période. Verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Voyez-vous, certains pensent que Dieu va nous protéger où que nous soyons, qu'il n'y a pas un lieu de sécurité, mais ce n'est pas biblique. À ce moment-là, pourquoi on devrait prier pour que notre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat si Dieu nous protégeait n'importe où, là où nous serons? Non. Quand le temps sera venu, ça impliquera un déplacement vers un lieu de sécurité. Et pourquoi pas en hiver? Parce que l'hiver, il y a des tempêtes. Pourquoi pas le sabbat? Parce que même sous ce stress et ces bouleversements, Dieu veut que nous reconnaissions son saint jour et que nous nous reposions et que nous l'adorions. Il ne veut pas que nous utilisions l'excuse en disant « Ah, Dieu va comprendre, nous allons voyager le jour du sabbat. » Non, Dieu dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat, même à cette époque-là. » Verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » À moins que ces jours ne soient abrégés, personne ne sera sauvé, personne n'aurait la vie sauve, comme nous verrons dans quelques minutes. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit « Alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » Pas seulement de faux prophètes, mais de faux messies vont apparaître et vont faire des prodiges. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'ils vous disent « Il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Certains vont dire, le Christ est déjà revenu et il vit en cachette maintenant. Laissez-moi vous poser une question. Le retour du Christ a été planifié depuis le début, depuis avant la création. C'est ce qui est écrit. Il s'est qualifié pour remplacer Satan. Il s'est qualifié il y a 2000 ans, lorsqu'il n'a pas péché dans cette chair humaine. Et il attend avec impatience, il planifie, il prépare son retour avec son Père. Pensez-vous qu'il va arriver par la porte d'en arrière? Comme certains le prétendent, ceux qui prétendent qu'il y aura un enlèvement et que le Christ va venir en secret. Non, il est le roi. Il va revenir en tout pouvoir et en toute gloire, comme nous allons voir tantôt. Il n'arrivera pas en secret par la porte d'en arrière. Lorsque la reine Élisabeth va visiter un pays, elle n'arrive pas en silence, à côté, par en arrière, sans que personne ne le sache. Non. Pourtant, elle est une toute petite être humain, mais c'est connu, sa venue est annoncée, préparée. Les gens vont savoir lorsqu'il va revenir. Regardez le verset 25. « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'allez pas. » Verset 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient, il se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » On voit les éclairs, n'est-ce pas? Et on entend les éclairs, pour ainsi dire. On appelle ça le tonnerre. et ça brise la barrière du son. Boum! Si le Christ vient rapidement, à grande vitesse autour de la planète, les gens vont l'entendre. Verset 28. En quelque lieu, que soit le cadavre ou le corps, Colossiens 1 parle du corps qui est l'Église, le corps du Christ. En quelque lieu, que soit le corps ou le cadavre, là s'assembleront les vautours. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, voici la clé, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Quel est le signe du Fils de l'homme? On vient de le voir au verset 27. Le Christ n'arrivera pas en secret. Ça va être éclatant comme retour. Voilà le signe du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Voilà ce que le Christ fera à son retour. Voilà un des événements qui est contenu dans la fête des trompettes, dans la réalisation de la fête des trompettes. Pour comprendre la fête des trompettes et son accomplissement, il nous faut comprendre clairement ce qu'est la tribulation et combien de temps elle durera. Vous savez, il y a beaucoup d'idées de confusion à ce sujet-là chez les ministres du monde. Certains disent que ça va durer 3 ans et demi, d'autres disent ça va durer 7 ans. Allons à Apocalypse, chapitre 11, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 11. Nous allons voir des références diverses concernant cette période de temps. Apocalypse 11 et le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Luc 21, verset 23, parle de ce temps des nations, le temps des nations gentilles, non israélites. Qui est en charge de Jérusalem aujourd'hui? Ce sont les Juifs. Le mont du Temple, actuellement, est sous la direction des Juifs, mais il est habité, pour ainsi dire, par les musulmans. Le temps vient où ce sera les nations du monde, les non-israélites, qui dirigeront Jérusalem. Les nations gentilles seront en charge de Jérusalem et seront en contrôle de Jérusalem. Pour combien de temps? Pendant 42 mois. Ça veut dire quoi, 42 mois? 36 mois, c'est 3 ans, plus 6 mois, 42 mois, 3 années et demie. Pendant 3 ans et demi, les nations gentiles seront en charge de Jérusalem. Verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. » Faites les mathématiques et vous arrivez exactement à 3 ans et demi, soit 42 mois, selon les mois de 30 jours, selon le calendrier de Dieu. Exactement la même période de temps. Alors, nous avons ici deux références claires à la période de temps qui est concernée. 42 mois, 3 ans et demi, 1260 jours. Durant toute cette période, les nations gentilles seront en charge de Jérusalem, mais pendant ces mêmes jours, les deux témoins prophétiseront. Vous vous rappelez qu'il y a deux témoins dans le passé qui ont prophétisé concernant des plaies qui allaient frapper l'Égypte à ce moment-là? Moïse et Aaron, les deux témoins de Dieu. Nous allons avoir une situation semblable avec les deux témoins au temps de la fin. Avant que les plaies frappent l'Égypte, vous vous rappelez, Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon et lui ont dit « Laisse aller mon peuple, laisse aller le peuple de Dieu. » Pharaon a dit non, mais ils ont dit à Pharaon « Si tu ne le fais pas, voici quelle plaie va frapper. » Dieu avertit toujours avant que des événements comme ça frappent. Dieu va utiliser ses deux témoins au temps de la fin de la même façon. Apocalypse chapitre 12 maintenant, verset 13, ça parle ici de l'Église de Dieu, la femme. C'est un terme collectif. Ça ne veut pas dire chaque individu comme tel, mais on parle de l'Église dans son ensemble ici. Apocalypse 12 et le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Ce n'est pas l'Église catholique. Ce n'est pas des églises fausses. Voici la vraie Église de Dieu. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Lorsque la nation d'Israël a quitté l'Égypte, il y a plusieurs millénaires, l'Exode dit qu'ils ont été portés sur des ailes d'aigle parce que c'est Dieu qui les protégeait et qui les guidait. Voyez-vous, la même expression. Ils ont marché pourtant. Mais les Écritures décrivent la situation comme ayant été portés sur des ailes d'aigle. C'est la même chose ici et ce sera la même chose au temps de la fin. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu. En grec, c'est le mot « topos » pour « lieu ». C'est un mot qu'on connaît bien. De là vient le mot « topographie », par exemple, ou « carte topographique ». Ça décrit la géographie du terrain. Donc, le mot grec « topos » veut dire « un lieu dans l'espace ». Un lieu déterminé, un espace délimité, un endroit précis. Un lieu et un endroit précis. Ce n'est pas là où vous serez, où que vous soyez, et ce n'est pas dans le ciel non plus. C'est un lieu géographique sur la terre où le corps du Christ ira. Le lieu de sécurité, comme c'est écrit. C'est un endroit où l'Église sera nourrie un temps, regardez bien, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est une année. Un temps, des temps, deux ans et la moitié d'un temps. Un plus deux plus un demi, c'est trois ans et demi. Donc, voici encore une autre référence à cette période de 42 mois ou de 1260 jours. On voit ailleurs aussi cette question de trois ans et demi. Vous pourrez aller voir dans Daniel 12, verset 7. Ça dit qu'à ce moment-là, la force du peuple saint sera brisée. Ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, ces choses finiront. Vous pourrez lire aussi dans Daniel 12, verset 12 à 14. Apocalypse 13, maintenant. Nous allons lire à partir du verset 5. La bête ici, elle reçoit une bouche qui proférera des paroles arrogantes et des blasphèmes et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voyez-vous, encore. Verset 7, et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation. La bête sera en autorité. À ce moment-là, le peuple de Dieu fidèle sera amené en lieu de sécurité pour être nourri et protégé. Pendant ce temps-là, les nations gentiles seront en contrôle de Jérusalem. Et au même moment, durant cette même période de temps, les deux témoins de Dieu prophétiseront. Certains de l'Église seront en difficulté à ce moment-là. Et au même moment, il y aura un traité. Il y aura eu un traité. Il y aura un semblant de paix mondiale pour un bout de temps. Avant la grande détresse, mais à un moment donné, les sacrifices seront arrêtés. La tribulation plus grande détresse qu'il n'y aura jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus après. Ça va durer trois ans et demi. Apocalypse, chapitre 6 maintenant. Apocalypse, chapitre 6. Et je vais référé ici à un tableau que nous avons au centre de notre brochure qui est intitulé « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Vous pourrez référer à cela chez vous pour compléter l'étude. Ça nous aide à comprendre les étapes de ce qui va se produire à ce moment-là. Je vais vous donner des références temporelles pour vous aider. Peut-être vous pouvez prendre déjà des notes à ce sujet-là. Vous pourrez le vérifier chez vous ensuite. Les événements du temps de la fin concernant la tribulation vont se produire. Ça va commencer par les premiers six sceaux. Et ça va se produire sur une période de 2 ans et demi. Les 6 premiers sauts se produisent durant les premiers 2 ans et demi. Et quand on arrive au 7e saut, c'est comme un peu les poupées russes, vous vous rappelez de ça? C'est des poupées les unes dans les autres. Ce sont des poupées rondes. Ah oui, ça s'appelle des Petrouchka. On ouvre une poupée et à l'intérieur, il y a une autre poupée. On ouvre la deuxième poupée, il y a une autre poupée en dedans. Et ainsi de suite. C'est ce qui va se passer avec le 7e saut. Le 7e saut comprend les 7 trompettes, 7 plaies. Et ça va se produire, les 7 trompettes, durant la dernière année, l'année de la colère de Dieu. Alors donc, les 6 premiers sauts, c'est 2 ans et demi. Et après ça, le 7e saut comprend 7 trompettes avec ses plaies. Et après, les 7 derniers fléaux, eux font partie de la 7e trompette. Et ces 7 derniers fléaux vont se produire sur une période très courte de quelques jours, probablement entre la fête des trompettes et la fête des expiations. Ça vous donne un petit peu une idée dans le temps, là. Apocalypse 6, le verset 1. Le commencement de la tribulation. À ce moment-là, le peuple de Dieu, la majorité des enfants de Dieu seront dans un lieu de sécurité. Je dis dans la tribulation. Non, Dieu ne veut pas qu'on soit dans la tribulation. Dieu ne veut pas que ses élus fidèles passent à travers la détresse. Il veut qu'ils soient épargnés et il va les épargner, ceux qui sont fidèles. Les Philadelphiens, chapitre 6, verset 1. Jean nous parle de sa vision et ça décrit les 2 années et demie des 6 premiers sauts. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sauts et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Matthieu 24, verset 5, parle de faux prophètes qui vont apparaître. Nous comprenons que ce cheval blanc signifie et représente un faux prophète, particulièrement un faux prophète très puissant. Et c'est une fausse représentation du vrai Christ qui, lui, va apparaître aussi sur un cheval blanc lorsqu'il reviendra. On le voit dans Apocalypse 19. Le faux prophète a quelque chose qui ressemble un peu au Christ, mais c'est un faux prophète qui est plus qu'un prophète. C'est un prophète qui a la puissance de gouverner. On le voit parce qu'il a une couronne. On entend parler de plus en plus de la renaissance de l'Empire romain en Europe. Dans ce phénomène, il y aura une réunification de l'État et de l'Église, comme ça s'est passé dans le passé. On voit que celui qui monte ce cheval blanc-là a un arc. Et un arc, c'est pour tuer. Vous avez déjà entendu parler d'une grande Église qui a fait tuer des gens pour établir son autorité? Ce n'est pas l'islam dont je parle. Vérifiez l'histoire. Et nous voyons une grande Église qui a son quartier général à Rome, qui a utilisé des assassinats pour éliminer ceux qui n'étaient pas en accord avec elle. Et nous allons voir quelque chose de semblable se produire à nouveau. Maintenant, nous sommes dans des événements préparatoires à la pleine course de ces cavaliers que nous voyons ici. Ce n'est pas encore commencé, bien sûr, mais on voit que les choses se préparent. Nous sommes dans un stade préparatoire. Quand il ouvrit le second sceau, verset 3, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux celui-là. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. ça signifie la guerre, une grande guerre, une guerre mondiale qui doit se produire. C'est le deuxième sceau. Verset 5, « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. » Quelque chose pour mesurer, pour peser. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier. » Ça veut dire un jour de salaire pour une mesure de blé. À peine suffisant pour nourrir une famille de trois ou quatre personnes pendant une journée. Ça représente peut-être la valeur de deux pains, possiblement. Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin seront rares à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi est-ce que nous avons cette hyperinflation qui va se produire? Au point où une mesure de blé va coûter le salaire d'une journée de travail. C'est qu'il y aura un manque de produits. Quand un produit est rare, le prix augmente. S'il y a moins de blé et que tout le monde en veut, qu'est-ce qui arrive? Le prix augmente et les gens peuvent charger le prix qu'ils veulent pour le vendre, ceux qui en ont. Ce sera la situation. Qu'est-ce qui cause l'hyperinflation? La dévaluation, comme c'est arrivé au Zimbabwe, dévaluation du dollar. Eux ont eu inflation de milliers de pourcents. Leur monnaie a tombé jusqu'à temps qu'ils changent pour la monnaie américaine. Famine, ça. Et la famine vient en tant que résultat de la guerre. Verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, c'est encore durant la période de 2 ans et demi, première période de la tribulation, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait s'appelait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » La mort va apparaître dans la famine. Et quand les animaux n'ont pas assez de nourriture dans la nature, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ailleurs, n'est-ce pas? Alors, la mort viendra aux êtres humains par les animaux aussi. Combien de morts durant les 2 premières années et demie de la tribulation? 25%. Un quart de la population de la Terre. Nous sommes actuellement environ 7 milliards sur la Terre. 25% de cette population actuelle, ça veut dire 1,7 milliard de personnes qui mourront dans ces circonstances-là. On parle d'une dévastation terrible. Comment le monde va-t-il réagir devant cette dévastation et devant autant de morts? Rappelez-vous, pendant ce temps-là, les deux témoins à Jérusalem vont les avertir de ce qui s'en vient. Verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Des gens qui sont morts pour leur foi, qui ont été fidèles, ce sont des martyrs. Bien sûr, c'est un langage symbolique parce que les morts ne savent rien. S'ils étaient vivants, c'est ce qu'ils diraient. Verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à Zacan, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche leur fut donnée à chacun et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Nous lisons dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14 concernant des prémices au nombre de 144 000. Dieu utilise des nombres très précis, vous savez. Et il semble ici qu'il a un nombre précis de martyrs qui doivent donner leur vie avant le retour de Christ. Deux de ces martyrs-là, ce seront bien sûr les deux témoins qui seront tués dans les rues de Jérusalem. Et le monde se réjouira à ce moment-là. Ils vont même s'envoyer des cadeaux les uns aux autres, comme la Bible dit. Parce que, enfin, selon eux, les fauteurs de troubles, les deux perturbateurs seront morts. Mais on voit que Dieu a un nombre de martyrs qui doivent être mis à mort pour la vérité avant que le Christ arrive. Verset 12, le sixième sceau. Maintenant, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Éruption volcanique. On ne sait pas exactement ce qui va causer ça. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Vous avez déjà vu ce que c'est une pluie de météorites. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais ce sera des choses semblables à ça. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Ça veut dire tout le monde sur la face de la terre. Ils se sont cachés. Verset 16, ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Ils savaient ce qui s'en venait. Et ils savaient, ils vont savoir ce qui s'en vient ensuite. Pourquoi? Parce que les deux témoins leur auront dit. À cause de l'horreur de ce qui s'en vient, ils vont avoir tellement peur qu'ils souhaiteront mourir. Que les rochers tombent sur nous et nous écrasent. On préfère ça plutôt que de devoir passer à travers ce qu'on nous a annoncé. Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Les deux premières années et demie de la tribulation aura atteint son terme. Et maintenant, on arrive au jour du Seigneur, le jour de la colère de l'agneau. Combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est seulement une journée de 24 heures? Allons à Sophonie, s'il vous plaît. Sophonie, chapitre 1. Sophonie, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Même terminologie que l'apôtre Jean a utilisée dans Apocalypse. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et dans la version King James et dans la version originale, c'est « Le bruit du jour de l'Éternel est amer. » Il y aura un bruit, un son étourdissant. Pourquoi? Parce que ce sera le son de la trompette avant la prochaine catastrophe. Le son de cette trompette sera amer pour les gens autour du monde. Il y aura des cris aussi, de l'agonie, de la douleur, des pleurs. Il y aura des sons qui seront entendus à travers la planète entière. Vous savez, quand le volcan de Krakatoa a fait éruption, on dit que ça a été entendu à de très grandes distances. Il y aura probablement une éruption volcanique qui sera entendue autour du monde. La terre sera ébranlée. Le bruit de ce jour va se répandre autour du monde. Et le héros pousse des cris amers. Pas le faible, le fort, le puissant. Il y a des pères qui vont pleurer, et des mères aussi. Ce jour est un jour de fureur, verset 15, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Allons à Ésaïe, chapitre 34. Ésaïe, chapitre 34. Nous verrons plus de détails. On parle ici du jour du Seigneur. Est-ce que ce sera une journée de 24 heures? Non! Le jour du Seigneur va durer une année. C'est le principe d'un jour pour une année qu'on voit à différents endroits dans la Bible. Ésaïe 34 et le verset 8. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. On l'appelle le jour du Seigneur ou le jour de la colère de l'agneau. Mais on voit que c'est une année de représailles. Dieu le dit clairement. Allons à Ésaïe 61, où la même chose est indiquée. Ésaïe 61 et le verset 2. Un jour, qui veut dire une année dans ce contexte. pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Alors ici, il parle d'un jour de vengeance qui est une année, comme on vient de voir. C'est le jour du Seigneur. C'est cette dernière année des trois années et demie de la grande détresse. C'est la dernière année de la grande détresse. Allons à Apocalypse chapitre 8 maintenant. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous avons couvert les six premiers sceaux maintenant. Quand le septième sceau sera ouvert, ce sera les sept trompettes et commence la dernière année des trois ans et demi. Apocalypse 8, verset 1, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis sept anges qui se tenaient devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Alors ici, nous avançons dans la signification de la fête des trompettes qui représente non pas les deux premières années et demie de la grande détresse, mais la dernière année. La fête des trompettes représente le jour du Seigneur, la dernière année de ces trois années et demie, juste avant le retour de Christ. Donc, sept anges qui se tiennent devant Dieu, sept trompettes leur sont données. Verset 3, « Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, et un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta, et les prières des saints, la main de l'ange devant Dieu, et ainsi de suite. » Regardez le verset 6 maintenant. « Les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en soigner. » Quand le Christ va revenir? Le Christ va revenir fort probablement le jour de la fête des trompettes. C'est logique, c'est normal. La septième trompette va sonner et ça va annoncer les sept derniers fléaux, mais ça va annoncer le retour du Christ. Et nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette, à cette trompette. Certains disent que le Christ va revenir à la Pentecôte et que l'Église sera ensuite enlevée au ciel pendant quelques mois jusqu'à temps que la fête des trompettes se réalise. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas biblique. Si le Christ revient à la fête des trompettes et que ça dure un an, quand le jour des trompettes va-t-il commencer? Le jour de la fête des trompettes, justement, c'est logique. Le premier sonna de la trompette, verset 7, « Et de la grêle et du feu mêlé de sang fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » C'est la première plaie qui suit la première trompette. Et ça va se produire, mais après un avertissement, les deux témoins vont être sur tous les bulletins de nouvelles, dans les premières pages des journaux. Les gens sauront. Lorsque vous allez entendre la prochaine trompette, attendez-vous à quelque chose de grave, que la terre sera brûlée sur un tiers de sa surface. Combien? Je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire, j'ai déjà vécu dans la région des montagnes rocheuses, et à la fin de l'été, dans la région des montagnes rocheuses, lorsqu'on n'avait pas eu de pluie depuis plusieurs mois, tout devenait comme une boîte d'allumettes, c'était très sèche. Parfois, on entendait le tonnerre et on priait Dieu à ce moment-là. Dieu ne permet pas qu'il y ait des feux de forêt parce que parfois, dans cette région, il y a des grosses tempêtes de grêle qui arrivent rapidement avec des grêlons gros comme le poing. Et quand l'éclair frappe à ce moment-là, cette boîte d'allumettes, pour ainsi dire, qu'est-ce qui se passe? Ouf! Le feu se met en marche avec de grands vents dans cette région et ça parcourt les plaines rapidement et les montagnes. Il y aura eu deux ans et demi de tribulation et il y aura eu de la famine, un des sceaux qu'on a vu. Et une des choses qui aura causé la famine, c'est le manque de pluie. Alors la terre sera littéralement très asséchée à ce moment-là. Et lorsque le feu descendra du ciel, l'éclair, ça pourra brûler comme c'est marqué ici. Il y aura du sang avec la grêle, ça, j'ai jamais vu ça. Ce sera le début du jour de l'Éternel, de la colère de l'agneau. Et ça va s'étendre sur un an. Est-ce que Dieu met les choses exactement dans la même longueur de temps pour chacune des sept trompettes? Non, il peut y avoir des variations d'une à l'autre. Pensez-vous que la trompette, ça sera juste un petit bruit tout, 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 tout? Difficile à entendre? Que vous allez devoir prêter l'oreille vraiment pour entendre? Ou seulement ceux à Jérusalem entendront? Ou est-ce que vous ne pensez pas que Dieu va s'arranger pour que le monde sache? Oui. Ce sera un son de trompette qui sera entendu autour du monde entier. Le monde saura. Ça aura été annoncé par les deux témoins. Les premiers événements se seront produits. Quand la deuxième trompette sonnera, comment les gens vont réagir? Certains d'entre eux vont porter attention et vont même se demander qu'est-ce qui va arriver plus tard. Ils vont dire, qu'est-ce que ces bizarres de gens qui annoncent ces choses-là vont dire la prochaine fois? Le second sonnet de la trompette est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Ce n'est pas un astéroïde, c'est la prochaine, l'astéroïde. C'est comme une montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Ce sera peut-être comme le toit d'un volcan qui tombera dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Vous savez, les océans du monde sont formés d'une solution saline. Ils ont assez de pH que si vous y jetez assez d'éléments chimiques qui vont avec ça, ça pourra créer une marée rouge, comme on a déjà vu. Et il y a des bactéries aussi qui, ajoutées à l'eau saline, peuvent colorer l'eau en rouge. Certains connaissent déjà certaines marées rouges dans certaines régions à cause de ces phénomènes-là. Comment ça va se passer? Je ne suis pas sûr, mais écoutez, si vous placez cette montagne au bon endroit, que le toit de cette montagne tombe dans la mer et produit cette réaction-là, au moment où les courants marins des grands océans circulent, peut-être que cette marée rouge va circuler à travers le monde. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Comment détruire un tiers des navires? On parle de milliers de bateaux, probablement des dizaines de milliers de bateaux qui seront sur la mer. Un tsunami réussirait une telle chose. Des experts ont déjà spéculé qu'il y a une île dans les Açores qui a environ 700 mètres d'élévation et qui est très instable actuellement. Il y a même de l'eau à l'intérieur de cette montagne-là. Et les spécialistes disent que s'il y avait un grand tremblement de terre, la moitié de cette montagne pourrait glisser dans l'océan. Si ça se produisait, ça créerait une vague ou un tsunami de 300 mètres de haut. Et ça irait jusqu'à la côte est des États-Unis. Ça pourrait éliminer une grande partie de la population des gens qui sont sur la côte est. Ça couvrirait totalement les Caraïbes et la côte est de l'Amérique du Sud également. Une vague de 300 mètres de haut, combien de bateaux pourraient survivre à ça? Et la même chose pourrait arriver dans d'autres océans. Est-ce que ce sera un tsunami comme ça? Je ne sais pas. Dieu ne précise pas. Mais on peut s'imaginer un peu le genre de catastrophe à partir de ce que nous connaissons. Bien sûr, nous sommes comme des fourmis dans nos pensées par rapport aux pensées de Dieu, mais on peut extrapoler un peu à partir de ce que nous connaissons. Ici, il dit un tiers des créatures de la mer seront détruites et un tiers des bateaux seront détruits. Verset 10, peut-être un mois ou deux plus tard, là, les gens vont commencer à être de plus en plus inquiets et les gens vont se préparer au prochain événement. Le troisième ange sonna de la trompette, verset 10, et il tomba du ciel une grande étoile. Voici votre astéroïde, une étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Pourquoi? Par le plomb, par le mercure, toutes sortes de produits chimiques, on ne sait pas exactement. Mais il y aura des dommages extraordinaires. Un mois ou deux plus tard, voici le son d'une autre trompette. Ce son sera entendu autour du monde. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, il disait pas ça d'une toute petite voix. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. À cause des autres trompettes, à cause des autres sons de trompettes que les trois anges vont faire retentir. Et ce sera comme un écho qui se répercutera tout autour de la planète. Malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Et les deux témoins vont encore préciser leur annonce. Les deux témoins vont dire aux êtres humains, « Changez, adorez le vrai Dieu. Rejetez vos faux dieux et vos voies mauvaises. Changez, repentez-vous. » Mais le monde ne le fera pas, comme on verra un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Peu de temps après? Peut-être quelques semaines après, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ce ne sont pas des insectes réels. C'est un langage symbolique. Jean a vu dans sa vision des choses que lui ne connaissait pas. C'était des créatures dévastatrices. Mais il a décrit ça avec les mots qu'il avait à l'époque. Comment pouvait-il décrire les machines de guerre que nous avons aujourd'hui, lui qui a vécu il y a 2000 ans? Alors, il a fait au mieux avec les paroles qu'il avait. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Alors c'est une torture, des tourments qui vont durer pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Vous avez peut-être déjà vu les hélicoptères américains, les hélicoptères de combat qu'on appelle les Cobras. D'autres pays ont d'autres types d'hélicoptères, mais ça ressemble parfois à des visages d'êtres humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses, et ainsi de suite. Elles avaient des queues armées de dards, voyez-vous, comme les scorpions. Voyez-vous, les hélicoptères de combat et les avions, et tous ces armements modernes sont capables de lancer des missiles, lancer des dards, comme Jean mentionne ici. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant combien de temps? Pendant 5 mois. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs. Du temps passe. En fait, 5 mois, comme il nous est dit, dans cette situation. Et qu'est-ce qui se passe après ça au verset 13? Le 6e ange sonna de la trompette. La terre a été tourmenté, donc, depuis 5 mois maintenant. Comment la Terre va-t-elle réagir? Comment l'humanité va-t-elle réagir à ce qui se passe et à l'annonce qu'il leur sera fait concernant ce qui s'en vient? Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie des 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Un tiers des hommes, un tiers de toute l'humanité. 25% étaient morts dans la première partie de la tribulation. Et voici qu'un autre tiers sera tué par cette grande armée. Une armée, comme on voit au verset 16, de 200 millions d'hommes. Cette armée à elle seule représente 2/3 de la population totale des États-Unis. C'est incroyable. Et 1/3 de l'humanité sera tué à ce moment-là par ces fléaux. Verset 18, le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le souffle qui sortait de leur bouche. Verset 19, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, lisez bien ceci, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Un fléau puissant qui va frapper la terre. Puis après, on a la septième trompette qui va sonner, la dernière trompette. Apocalypse 11 et le verset 15. Apocalypse 11 et le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et qu'est-ce qui se passe à cette septième trompette? Ça ouvre la porte aux sept derniers fléaux, comme c'est marqué dans notre brochure. Allons dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 et le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Comment et quand? En un instant. En un clin d'œil. Quand? À la dernière trompette. Voilà la clé. Voilà la réponse. Non pas avant la tribulation. Non pas avant la grande détresse. À la dernière trompette. Combien de trompettes sonneront? Sept. Quand cette dernière trompette sera-t-elle sonnée? On se rappelle dans Matthieu 24, à la fin de la tribulation, à la fin des 3 ans et demi de dévastation mondiale. C'est là que cette septième trompette sonnera. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, ceux qui ont appartenu à Dieu. Et nous serons changés en un instant, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous aurons de nouveaux corps, des corps spirituels. 1 Thessaloniciens 4 dit comment, à ce moment-là, en un clin d'œil, ceux qui étaient morts en Jésus-Christ vont d'abord ressusciter, les saints qu'on voit dans la Bible ayant appartenu à Dieu et qui ont vécu selon ses voies et qui ont été fidèles. Ils vont être ressuscités et vont rencontrer le Christ dans les airs. Et ceux d'entre nous qui seront encore vivants à ce moment-là et fidèles, nous serons transformés en un instant et rejoindrons les autres. À la fête des tabernacles, vous allez entendre parler de ces choses-là encore plus en détail. La résurrection des saints, des prémices, aura lieu à la septième trompette. Allons à Apocalypse 19, comme nous avons lu dans Matthieu 24. Apocalypse 19 et le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Voici le retour du Christ. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Oui, il fera la guerre. Il devra faire la guerre. Pour une très courte période de temps, lorsqu'il reviendra. Vous savez, Satan sera encore en charge de la terre à ce moment-là. Mais le Christ qui s'est qualifié va revenir. Il faut qu'il mette hors jeu le petit Dieu de ce siècle, Satan, qui a séduit toute la terre. Et Satan va mettre le paquet au complet pour affronter le Christ, pour essayer de le détruire. Il ne réussira pas, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Apocalypse 7 et le verset 14. On voit que les prémices connaîtront le nom du Christ, connaissent le nom du Christ. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint. Son nom est la parole de Dieu. On parle ici du roi des rois, notre grand frère. Le fiancé qui vient marier l'Église, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foudra la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il va revenir de façon triomphante à ce moment-là. Allons à Apocalypse 16. Apocalypse 16. Lorsque le Christ reviendra, il poussera un grand cri, comme c'est marqué dans les textes originaux. Allons à 1 Thessaloniciens 4 avant, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, et nous allons commencer à lire au verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Dans l'original, c'est « Le Christ descendra et lancera un cri ». Et tout ça sera annoncé. Ce sera annoncé. Aucun chef d'État n'entre dans une salle ou ne sera un endroit public sans que ce soit annoncé. Ce sera annoncé. Un ange l'annoncera et le Christ criera à son retour. Ce sera peut-être un cri de guerre. Rah! Ou, pensez-y, le Christ a attendu ce moment depuis le tout début. Finalement, ça va se produire. Ça sera peut-être « Yahoo! » Parce que finalement, nous voici rendus à cette étape. Le Christ revient finalement en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs et il amène son royaume pour être établi sur la terre, pour libérer l'humanité. Il va éliminer l'adversaire pour 1000 ans. Il va amener la paix. Quel cri de joie aussi en même temps. Le Christ reviendra en lançant un cri. Au son de la trompette de Dieu. Oui, ça annoncera la guerre, mais ce sera en même temps un son ou un cri de triomphe parce qu'il revient pour établir son royaume sur la terre. Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 16, verset 2. Alors que cette septième trompette va sonner, que les prémices seront ressuscitées et que ceux qui sont encore vivants seront transformés en un instant, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il y a des fléaux qui vont s'abattre sur la terre d'une façon très rapide. 16, verset 2, Apocalypse. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Un ulcère horrible qui va frapper. Probablement, ça va se passer entre la fête des trompettes et la fête des expiations. Verset 3, le second versa sa coupe dans la mer, elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer, pas un tiers des animaux marins, tous les animaux marins. Qu'est-ce qui va se produire quand elle sera pleine de créatures mortes? Vous avez déjà senti l'odeur des corps morts, ça sent la pourriture. Et ce que ça fait, c'est que ça absorbe l'oxygène. Alors voici des problèmes majeurs. Combien longtemps les êtres humains qui restent pourraient-ils survivre? Ça ne peut pas être long, absolument pas, parce que les océans maintiennent l'équilibre du climat, de l'atmosphère, de l'oxygène, et ainsi de suite. Verset 4, « Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. » On ne boit pas du sang, c'est impossible à boire. On ne peut pas continuer à vivre en buvant du sang. Ça va toucher les rivières et les sources. Il n'y aura plus d'eau potable. Combien de temps un être humain peut-il survivre sans eau, sans nourriture et sans eau? Environ 10 jours, 10, 12, 14 jours maximum. Les plus âgés et les enfants meurent en 2 jours à cause de la déshydratation. À ce moment-là, quand vous êtes déshydraté, le cerveau n'envoie plus de messages au cœur pour fonctionner ni aux poumons pour fonctionner. ceux qui sont en bonne condition et qui ont dans leur corps un peu de réserve d'eau peuvent vivre 2 semaines au maximum. Peut-être qu'il y aura un petit peu de nourriture, mais s'il n'y a plus d'eau potable, qu'est-ce qui se passe? Non seulement les êtres humains meurent rapidement, mais toute créature sur la face de la terre. Et toutes ces créatures-là et les êtres humains qui vont rester mourraient si Dieu n'intervenait. Ça ne pourrait pas continuer. C'est pour ça que ces jours-là seront abrégés, comme c'est marqué dans Matthieu 24. Il y aura une fin rapide d'apporter à ça, parce qu'il n'y aurait plus d'êtres humains. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils vont continuer encore à ne pas vouloir se repentir. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Certains d'entre vous avaient déjà visité des cavernes où on a fermé les lumières à un moment donné. Et ça donne un petit aperçu de ce qui va se passer ici. La noirceur devient tellement épaisse qu'on pourrait presque la toucher. Toute la région où la bête sera, à ce moment-là, sera couverte de ces ténèbres-là. Même chose que la plaie qui est arrivée à l'Égypte sous Moïse. Le sixième ange, verset 12, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie au roi. Ces rois-là vont venir pour combattre le Christ. Et on sait le résultat, ce qui va se produire, ces gens-là vont pourrir debout. Il y aura du sang à la hauteur du mort des chevaux lorsque ces grandes armées-là vont venir combattre le Christ. Verset 17, le septième ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait, c'est terminé, c'en est fait. » La terre entière entendra le son de cette voix. « C'en est fait, c'est terminé. » La fête des trompettes se sera accomplie totalement. Il y aura eu des morts, de la destruction, des bouleversements incroyables. L'humanité aurait été humiliée. Mais dans tout ça, il y aura le début d'un espoir extraordinaire, le retour du roi des rois. Les serviteurs de Dieu seront devenus des êtres spirituels nés dans la famille de Dieu. Puissants, qui vont hériter toutes choses, comme c'est écrit. Ils vont hériter la sagesse de Dieu, sa puissance, la puissance pour diriger avec justice, pour corriger ce monde pour le mieux, pour guérir les nations, pour leur enseigner la voie pour être heureux, la voie pour connaître le vrai Dieu. Voilà la fête des trompettes. Voilà l'accomplissement de ce jour que nous avons le bonheur de célébrer aujourd'hui. Et sa réalisation vient rapidement. L'avenir réserve des événements terribles, mais en même temps des événements enthousiasmants. Les événements mondiaux vont s'accélérer et vont devenir plus terribles, alors que le jour du Seigneur va s'accomplir, particulièrement donc dans la dernière année. La fête des trompettes décrit ce temps horrible, le jour du Seigneur, bien sûr. Mais comme j'ai mentionné, ça représente également la fin des 6000 années de règne de Satan sur le monde, de sa domination sur l'humanité. Et tout de suite après la fête des trompettes, c'est la fête des expiations. Le jour où Satan sera éliminé, la libération de tous les captifs humains, libération de toute l'humanité. Il faut que ces événements catastrophiques arrivent pour que nous puissions avoir une humanité qui soit disposée à être enseignée, où Satan aura été éliminé. Seulement à ce moment-là, une fois que l'humanité aura été libérée de Satan et sera humiliée, les gens vont dire « Oui, on veut savoir, montons à la maison de Dieu à Jérusalem. On veut apprendre les commandements de Dieu. On veut vivre heureux. On veut goûter la paix qui nous est annoncée, qui nous est montrée. » Aujourd'hui, c'est impossible. Vous imaginez des gens sur la rue aujourd'hui qui nous diraient « On veut aller avec vous célébrer ces fêtes. » Non, c'est pas possible. Ça ne se produira pas. Bien sûr. Il faudra que ces événements catastrophiques puissants se passent et que Satan soit éliminé pour que l'humanité en arrive au point de dire « Montrez-moi la voie qu'il faut suivre. Montrez-moi la voie selon laquelle on doit vivre. » Nous sommes les prémices, frères et sœurs. Nous allons faire partie de la première résurrection si nous sommes fidèles. Au retour de Christ, au milieu de ces événements terribles, si nous restons sans tâche, si nous continuons à nous purifier, si nous n'abandonnons pas, nous serons transformés. Avant ça, nous aurons été épargnés de la tribulation. Frères et sœurs, tenez bon, je vous encourage à chérir la vérité de Dieu, ne l'abandonnez pas. Vivez votre vie en tant que chrétien de tout cœur, proche de Dieu. Et vous aussi, ça vous interpelle, jeunes gens dans l'Église. Dieu veut que vous soyez dans son royaume. C'est tout proche. Le Christ est tout près de revenir. Écoutez, chacun que Dieu appelle aujourd'hui, même les jeunes gens dans l'Église, les tout jeunes, vous avez un rôle à jouer. Dieu vous aime et Dieu veut vous protéger. Frères, alors que nous prions sans arrêter, alors que nous étudions notre Bible chaque jour, alors que nous restons réveillés chaque jour et que nous veillons sur les événements, un jour nous allons entendre la septième trompette et nous allons, à ce moment-là, sentir notre corps être changé complètement pour être transformé d'être physique en être totalement spirituel. Nous allons nous élever dans les airs pour rencontrer notre grand frère, notre sauveur Jésus-Christ. Et il va nous accueillir. Voilà ce que nous réserve la fête des trompettes. Daniel 2, 45 dit, « Le songe est véritable et son explication est certaine. » Êtes-vous prêt? Est-ce que vous vous préparez à jouer votre rôle dans le plan de Dieu? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Et qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir pour vous assurer que vous allez être transformé et vous élever à la rencontre du Christ au son de cette trompette.